bonsoir, bienvenue. Avant de céder la parole à nos invités ce soir, Raphaël Confiant, nous allons explorer Bataillon Créole, son dernier ouvrage. Christian Tortel, journaliste à France Télévisions, blogueur littéraire qui animera la rencontre. Et Sophie Bourrel, comédienne, et on connaît notamment pour ses lectures des textes de Glissant. On va la découvrir dans les textes de Raphaël Confiant tout à l'heure. Je voudrais, avant de leur céder la parole, donc profiter de ce premier événement des 4e édition du festival pour remercier les partenaires sans lesquels, bien entendu, cette manifestation dans son ensemble ne serait pas possible. D'abord, le ministère de la Culture et de la Communication et ses services déconcentrés, comme on les appelle en Martinique. Ensuite, le comité martiniquais du tourisme et ses bureaux à Paris, je salue François Jacques, avec qui nous avons travaillé à cette édition. La maison de Martinique, dans laquelle nous serons bientôt. Le conseil régional d'Île-de-France, qui nous suit maintenant depuis 3 ans, c'est donc un partenaire fidèle. Et enfin, Camoens, l'Institut culturel portugais, avec lequel nous travaillons aussi depuis 2 ans maintenant. Alors, bien entendu, la seconde catégorie de partenaires, ce sont les lieux qui nous accueillent. L'Odéon, j'y reviendrai. La maison de Martinique, j'en parlais tout à l'heure. Nous serons samedi prochain pour une rencontre avec Fabienne Canor et Alfred Alexandre, écrivain d'une génération plus jeune. La Fondation Gulbenkian, le centre en France de la Fondation Calouste Gulbenkian, donc institution portugaise fameuse. Nous serons demain à 15h pour accueillir le poète portugais José Tolentino Mendonça. Voilà pour les lieux. Et puis enfin, une autre catégorie de partenaires que je cite en troisième et qui est la première sont bien sûr les artistes, au premier rang desquels figure Raphaël Confiant, qui font souvent de longs voyages pour être parmi nous. Raphaël, vous êtes arrivé ce matin de Fort-de-France et vous êtes en pleine forme, tant mieux, nous en réjouissons. La parole est à vous.
On écoute Sophie Bourrel.
Moi, Hortense, qui vient chaque fin d'après-midi au pied du soldat inconnu nègre, qu'il fasse grand vent et grosse pluie, ou que le soleil joue à l'intéressant sur nos têtes, je sais combien il est difficile de combler une absence, surtout quand elle est irrémédiable. Sans cesse, j'avais l'impression d'apercevoir l'ombre de Théodore, ou d'entendre le son de sa voix. Quand j'épluchais un fruit à pain à la cuisine ou quand je désherbais mon jardin créole, une fois, son visage apparut même fugacement dans le miroir de mon armoire et mon cœur faillit se dépendre, s'échapper, tomber par terre. Je poussai un cri si strident qu'il rameuta le voisinage. On me fit respirer de l'éther. On m'allongea sur mon grabat, on se mit à crier pour moi, et moi, je me laissais faire, à quoi dire, un bébé. Mon corps ne m'appartenait plus. Plus exactement, mon esprit s'était envolé hors de lui, hors de portée de la souffrance qui l'habitait, et j'en éprouvais une manière de rejeter. La malignité publique finit par décréter que j'étais sujette à trop d'émotionnement. On compatit à ma douleur. Non, ce n'est pas rien de perdre un fils, surtout quand on n'en a qu'un seul. De guerre lasse, si je peux dire, je me résolus à descendre dans l'Anville, cet endroit que les gens qui ont eu la chance d'aller loin à l'école appellent Fort-de-France. Je n'aimais ni ce nom, ni le quadrilatère de maisons bourgeoises entourées de quartiers pouilleux qui l'encerclaient. L'air y est malsain. Et les nuées de moustiques volaient au-dessus du canal à ciel ouvert qui sépare le premier des seconds. Canal pestilentiel, où chacun déverse qui le contenu de son pot de chambre, qui une chaise ou une table hors d'usage, qui des bouts de ferraille. On m'avait certifié qu'au Fort Saint-Louis, on saurait me renseigner sur le rapatriement du corps de Théodore. Il n'en fut, hélas, rien. Ni au Fort de Zex non plus. Pas davantage au fort Arcanson. Partout, on m'assénait la même rengaine. Tous les soldats créoles décédés sur le front européen regagneront leur terre natale, ma bonne dame. Le gouverneur l'a promis. Vous n'avez donc pas lu les journaux ? Non. Je ne l'avais pas fait, parce que je ne distinguais rien de ces minuscules taches noires alignées sur du papier. Une amarreuse de Cannes n'a nul besoin d'aller à l'école. Tout ce qu'elle doit savoir faire, c'est de ramasser 10 morceaux de Cannes et les lier ensemble pour en faire un paquet, avant d'assembler 25 de ces paquets pour constituer une pile. De même que les coupeurs de Cannes, le béquet nous payait à la tâche. Notre paye du samedi dépendait de la force de nos bras, et les commandeurs décomptaient scrupuleusement le nombre de paquets de chaque pile. Quand une maladie se fessait sur vous et qu'on devait garder le lit, personne ne vous prenait en pitié. C'est pourquoi les négresses enceintes s'escrimaient jusqu'à 3 jours avant leur accouchement et reprenaient le travail dès le surlendemain. Dans l'Anville, il y avait bien un monument aux morts sur la place de la Savane, mais pas de soldats inconnus nègres. D'ailleurs, plus personne ne semblait se soucier de cette guerre, que d'aucuns appelaient cavalièrement 14-18, et les héros martiniquais qui y avaient participé n'intéressaient pas grand monde. Je croisais ainsi des éclopés, des sans-bras, des unijambistes, des défigurés, pathétiques, dans leur uniforme défraîchi, qui erraient dans les rues sans que nul ne les salue. L'un d'eux mendiait même aux abords du grand marché, et l'assiette en fer blanc posée à côté de lui demeurait presque vide. Je voulus lui parler, le soutenir, mais quand je m'approchais, je découvris avec effroi qu'il n'avait plus que 2 trous noirs à la place des yeux. Ici-là, personne n'avait donc entendu parler d'un certain Théodore Hamelin, natal de Grand-Anse, coupeur de Cannes émérite, en passe d'être nommé muletier, âgé de 19 ans à peine, mort pour la patrie lors de la bataille de la Marne, mon fils à moi, oui. Je réalisais que tous ces noms qui étaient alignés sur les plaques en marbre des monuments aux morts n'avaient pas plus d'importance aux yeux des natales de l'Anville, les Faux-Galets, que ces grappes de chiens sans maître qui, dès l'allumée des lampadaires, envahissent les rues désertées. À Grand-Anse, il n'en allait pas de même, car tout le monde y connaissait tout le monde. Dans l'Anville, il me semblait que personne ne connaissait personne. Le temps fabriqua du temps. Mois et années s'enfuirent sans que mon Théodore me soit rendu. Alors, je décidai de m'adresser à la statue du soldat inconnu nègre. Elle saurait me comprendre. Elle me raconterait les batailles, les coups de fusil et de canon, les chars d'assaut et les avions. Je savais déjà parler aux arbres, aux plantes et au vent. Pourquoi n'arriverais-je pas à en faire de même avec elle ?
Merci Sophie Bourrel. Nous sommes au premier chapitre, au dit de Mont Hortense, au pied de la statue. Le bataillon créole, c'est un roman sur les poilus martiniquais, 1914-1918. Et la parole vous l'a donnée d'abord un personnage féminin devant une statue. Une statue du soldat inconnu nègre.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'Europe est loin et que cette guerre n'est pas facilement imaginable. Et que donc, la population restée sur place, les parents, amis des soldats, avaient des difficultés à comprendre. Vous leur dites la bataille de la Marne, de la Somme, c'est complètement... c'est très très difficile à imaginer. Donc... cette vieille dame a son fils qui est mort sur le champ de bataille et elle décide de s'adresser à cette statue nègre qui est la seule de la Martinique. C'est-à-dire qu'en Martinique, il n'y a que les statues des découvreurs, des conquérants, des libérateurs comme Victor Schœlcher qui a participé à l'abolition de l'esclavage. Il y a la statue de l'impératrice Joséphine, la femme de Napoléon. Dans cette commune du nord de la Martinique, je ne sais pas qui, je n'ai pas réussi à trouver qui, quel maire a fait ça, mais il a fait une statue du soldat, alors vêtu de bleu avec l'uniforme bleu pâle et tout, enfin, avec son casque et tout ça, mais nègre.
La statue existe, ce n'est pas une invention.
Non, elle existe. Donc, j'ai imaginé que ces gens venaient interroger la statue à tour de rôle, parce que dans la culture créole, il y a cette, comment dirais-je, il n'y a pas cette dichotomie aussi marquée entre ce qui est raisonnable et déraisonnable, entre ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Et on voit par exemple des gens, enfin on voyait, parce que maintenant les choses ont beaucoup changé, du temps de mon enfance, je voyais des gens qui parlaient seuls, qui marchaient et qui parlaient seuls, et ça ne choquait personne. Et ces gens disaient parfois des choses sensées. Donc, au lieu de faire un roman classique, historique, où j'aurais accompagné les soldats antillais sur le champ de bataille, je décrirais les combats, etc. Au lieu de faire un roman historique, j'ai préféré partir de l'imaginaire de la guerre chez ceux qui sont restés au pays. Alors, bien sûr, il y a des intrusions dans les combats réels, etc. Mais le point de vue principal est à partir de la Martinique, où on a d'énormes difficultés, je le répète, à comprendre ce que c'est que cette guerre, parce que c'est si loin, c'est une époque où il n'y a pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Donc, on voit les corps arriver, ils sont rapatriés, les cercueils sont enterrés, les morts sont enterrés en grande pompe, mais dans l'esprit des gens, ça c'est quelque chose qui n'est pas complètement, c'est pas très clair.
Comment vous est venue l'idée d'écrire un roman sur cette période? Vous êtes dit, 2014, le centenaire, j'écris un roman?
Non, pas du tout, parce que je n'y avais même pas pensé, figurez-vous. Régulièrement, mon éditeur, qui me fait confiance depuis des années, Madame Isabelle Gallimard, me demande, mais quel est votre prochain projet? Et là, en fait, j'ai tous mes projets dans ma tête. C'est-à-dire que... vous avez dit artiste, monsieur Lamoureux, tout à l'heure. Je ne me sens pas du tout artiste. Je serais bien incapable d'écrire une œuvre strictement littéraire. Qu'est-ce que j'appelle une œuvre strictement littéraire? C'est-à-dire une œuvre où il y aurait des personnages qui raconteraient leur vie personnelle et leurs problèmes personnels, etc. Je suis plus quelqu'un qui est à la frontière de l'histoire, de l'anthropologie, de la littérature. Et contrairement à quelqu'un comme Patrick Chamoiseau, qui lui est un vrai écrivain au sens premier du terme. Et donc, la plupart de mes livres sont adossés à des événements historiques qui se sont déroulés en Martinique, ou auxquels les Martiniquais ont pris part. Par exemple, mon tout premier roman en français, puisque j'avais écrit d'abord en langue créole, s'appelle Le Nègre et l'Amiral, et il date de 1988. Et il est consacré à la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un régime vichiste qui s'est installé à la Martinique, avec un amiral appelé l'amiral Robert, et qui a pratiqué le vichisme sous les tropiques, je dirais. Bon. Presque tous mes livres sont adossés à un événement, soit social, hein, soit historique. Et donc, il fallait que ça vienne. Il fallait que ça vienne, mais il n'y a pas eu d'intention particulière par rapport à un centenaire dont j'ignorais l'existence. Hein. Oui, le livre, je me suis dit quand même que c'est une excellente hasard.
Il est bien tombé, il est sorti oui, il y a un an, et puis fait. Comme ça on a pu le lire à ce moment-là. Le Nègre et l'Amiral, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, celui-ci sur la Première, mais la mémoire de ces deux guerres est très différente, je crois, en Martinique.
Très différente, oui. Celle-ci est oubliée, alors que c'est une guerre particulière, parce que c'est la première fois que les soldats antillais étaient enrôlés dans l'armée française comme soldats français. Les Martiniquais ou les Guadeloupéens et Guyanais faisaient la guerre comme volontaires. Par exemple, dans la guerre du Mexique, cette folle épopée de Maximilien pour aller conquérir le Mexique, eh bien, la flotte française avait fait escale Fort-de-France pour se ravitailler pendant un mois, et des dizaines de Martiniquais se sont portés volontaires, alors que des dizaines de mercenaires polonais se sont enfuis en Martinique. Et c'est pour ça que pour nous, les noms Loveski, Sobeski, etc., paraissent comme des noms martiniquais. et c'est une espèce de chassé-croisé assez étrange. Donc dans l'armée de Maximilien, il y avait des mercenaires polonais. Parce que la Pologne était divisée de partout, donc les Polonais offraient leurs bras à plusieurs armées européennes. Et donc il y a cette flotte qui arrive en Martinique. Des dizaines de Martiniquais vont offrir leurs bras pour aller combattre comme volontaires. Et des Polonais en profitent pour s'enfuir et se fondre dans la population. Et à ce propos, j'ai une petite anecdote très courte qui est très amusante. Nous mangeons dans Patrick Chamoiseau, Milan Kundera et sa femme Vera dans un petit restaurant au fin fond de la Martinique. Et la serveuse, quelqu'un qu'on appelle Chabin, c'est-à-dire de mon type, une peau relativement claire et des yeux verts. Et je vois que Vera Kundera la regarde chaque fois qu'elle vient servir. Alors je dis, mais il y a un problème. Elle me dit, non, ce verre, c'est pas un verre ouest européen. C'est un verre de Bohème. Alors je dis, mais non, c'est impossible, on est au fin fond de la Martinique. Si quelqu'un a les yeux verts en Martinique, c'est un ancêtre normand, vendéen, poitevin, enfin. Et à la fin du repas, elle est très intriguée. Elle dit à la jeune fille, mais vous vous appelez comment? Et la jeune fille, avec son accent créole, a coupé. Je m'appelle Lovinsky. Et effectivement, cette fille était descendante des Polonais et avait gardé le nom. Il y a même un quartier qui s'appelle Lovinsky dans une commune de la Martinique. Donc, c'est pour revenir à ce que je disais, les soldats antillais étaient des volontaires. Alors, guerre de 1870 aussi, hein, contre l'Allemagne, ils sont volontaires.
Et là, c'est la première conscription.
Voilà, c'est la première conscription. C'était une revendication des élites antillaises, hein, de couleur. Parce que les élites blanches, béquées, ne voulaient absolument pas l'assimilation. Puisque ce qui veut dire l'assimilation veut dire l'application des lois de la République, de le territoire colonial. Donc ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait cela. Je rappelle quand même, mais vous le savez, que l'indépendance a été acquise dans toutes les Amériques par les élites blanches créoles, sauf en Haïti. Simon Bolivar était un blanc créole, George Washington, Pedro II qui a libéré le Brésil, enfin bon. Il n'y a qu'un seul pays des Amériques qui a été libéré par les gens de couleur, c'est Haïti. Je ne suis pas sûr que ça leur ait porté chance. Enfin bon, je veux dire que les béquets en Martinique n'ont jamais été une population, alors qu'ils sont d'origine française, hein, et c'est des problèmes très francophiles, si je puis dire, s'ils pouvaient faire passer la Martinique sous régime américain, états-unien, ils n'hésiteraient pas une seconde.
D'ailleurs, on reviendra sur le rôle des béquets. Ouais. Économiquement, ils ne veulent pas se séparer de cette main-d'œuvre qui va partir au front.
Oui, parce que cette main-d'œuvre. Alors, beaucoup de jeunes partaient pour fuir la plantation de canne à sucre. Parce que l'équivalent du travail de la canne à sucre dans les pays tempérés comme chez vous, c'est le travail de la mine. Vous savez comment mineur, c'est un travail terrible. Et l'équivalent en pays tropical, c'est coupeur de canne. Il fait 35 degrés, vous êtes en plein soleil, vous êtes courbé en train de couper une espèce de grande tige que vous devez couper en trois morceaux. Et vous faites des paquets. Alors il y a les amarreuses, c'est-à-dire les dames qui attachent les paquets. Et vous faites ça de 5h du matin jusqu'à 15h. Et puis il y a des serpents, enfin il y a toutes sortes de choses, quoi. Et c'est un travail très très difficile. Donc beaucoup de jeunes se disaient, parce que la France dans leur tête, ça ne signifiait pas grand-chose non plus dans les campagnes. Hein. C'était une image un peu floue.
Là-bas.
Voilà, et c'est pour ça que la France est appelée là-bas jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc quand quelqu'un en Martinique vous dit « Ah, ma fille vit là-bas », ça veut dire qu'elle vit en France. Et bon, même si l'image est devenue plus précise, hein, bien sûr, mais bon, là on est au début du XXe siècle. Et ces jeunes accourent à la conscription pour fuir la plantation de canne à sucre. Hein. Et les béquets sont bien sûr furieux parce que qui est-ce qui va couper la canne? L'économie va en prendre un coup, il n'y a personne qui va aller couper la canne. Et bon, alors il y en a qui partent aussi par amour de la patrie, parce qu'il y a tout un discours d'amour de la patrie qui est tenu par les élites de couleur qui, dès la fin du 19e siècle, avaient demandé la transformation des colonies d'Amérique en département d'outre-mer. On pense que c'est Aimé Césaire qui l'a fait, mais on se trompe. Aimé Césaire, en 1946, n'a été que l'aboutissement d'une longue revendication.
Oui, mais il y a quand même la loi de départementalisation.
Ah oui, mais elle est demandée. Non, mais lui, c'est la fin du processus.
C'est la fin du processus.
C'est-à-dire que le processus, il date de la fin du 19e siècle. Et bien sûr, il s'était refusé parce que les béquets faisaient pression. Ils avaient des relais hein, dans la métropole, au niveau des ministères et tout. Et ils ne voulaient surtout pas. Parce que qui dit département, dit sécurité sociale, dit toutes sortes de choses à payer. Donc il fallait surtout pas que ça se fasse, quoi. Et donc, oui, pour la première fois, ils sont enrôlés. Et donc, ils partent par vagues. Hein, et là, ils sont décimés quand ils arrivent ici, parce qu'ils ne sont pas habitués au climat. Donc, ils ont des grippes, des pneumonies. Donc, le haut commandement décide de les faire descendre dans le sud, à Marseille, se disant que le climat va arrêter l'hécatombe. Mais ça n'arrête pas l'hécatombe, alors on dit, bon, on va les emmener en Tunisie. On les envoie en Tunisie, et là, ça va un peu mieux. Et puis, on les rapatrie une fois qu'ils sont un peu adaptés au climat, et beaucoup sont morts donc, sur le champ de bataille. Et il n'en est resté que des chansons d'une danse d'origine africaine qui s'appelle le Bel Air. Et il y a une chanson qui parle des Dardanelles. Et la plupart des gens qui chantent ces chansons ne savent pas ce que ça veut dire Dardanelles. Oh Dardanelles, etc. C'est peut-être le seul élément qui est resté dans la mémoire collective, je dirais. Alors bien sûr, il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus. Au niveau des intellectuels, c'est resté. Mais la mémoire collective, c'est curieux, mais ça s'est effacé.
Oui, alors, à propos des historiens, donc, votre livre m'a incité à aller voir quelles références on pouvait avoir dans le milieu des historiens, et en particulier Sandrine Andrivon Milton, oui, que vous avez lu, etc., qui a effectivement passé, je crois, son doctorat sur cette période-là en particulier. Et on peut peut-être donner des chiffres, puisqu'effectivement, un roman, c'est pas pour les chiffres, mais sur l'effectif total des soldats antillo-guyanais, comprenant donc martiniquais, guadeloupéens et guyanais.
Alors on ne disait pas antillo-guyanais, à l'époque on disait soldat créole.
Créole.
On ne disait pas antillo-guyanais, c'est une expression nouvelle.
Bon, excusez-moi pour l'anachronisme. Donc, de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, ouais. 16 743 sont partis et elles relèvent 3 092 morts, c'est-à-dire 18%. Pour la Martinique, 8 788 sont partis et on compte 1 680 morts. C'est à peu près le même pourcentage, 19%. Est-ce que son travail vous a servi? Et alors, quelles ont été vos sources, justement, entre les sources historiques, les sources, les lettres également, pour écrire le bataillon créole?
Eh bien, j'ai coutume de travailler de deux façons. Comme je ne remonte jamais très loin dans l'histoire, j'ai souvent des vieilles personnes qui ont entendu dire par leurs grands-parents des choses. Donc, je sollicite quand même la mémoire collective pour tous mes livres. Et puis, je fouille dans les archives, évidemment.
Alors, au passage, précisez, quand vous dites « je sollicite la mémoire collective », c'est-à-dire, vous interrogez?
Ah oui,
dans votre famille?
Comme dans ma famille, mais partout. C'est-à-dire que je prospecte. Hein. Je dis, mais qui a entendu parler de la guerre de 14-18? Et puis, je vais avec mon magnéto, j'enregistre. C'est pour ça que je dis que c'est pas très artistique comme travail, c'est plutôt du travail anthropologique ou ethnologique.
C'est juste une enquête.
Je vais carrément, j'enregistre les gens, je les fais parler et la mémoire redémarre. Hein. Des vieilles personnes se souviennent que leur grand-père leur avait dit telle chose, etc. Et tout ça, c'est très précieux pour moi. Mais ça ne suffit pas, je fais du travail d'archives, je lis les gens qui ont travaillé sur la période aussi. Et puis j'essaie de faire une alchimie avec tout ça. Et c'est pas des romans historiques que je fais du tout, puisque je prends des libertés avec l'histoire, et puis c'est pas chronologique et tout ça. Mais c'est quand même fortement appuyé. J'essaie d'être le plus précis possible. Hein, Bon, je ne donne pas le nombre de morts, hein, mais je dis quelques milliers, par exemple.
Oui. Et les lettres, est-ce que les lettres de Poilu ou les lettres des familles aux soldats au front, c'était une documentation?
Oui, c'était très intéressant. Alors, les lettres qui se trouvent dans mon livre, je les ai réécrites, évidemment. Mais C'est un matériau très intéressant parce que, à l'époque, l'alphabétisation était quand même peu développée en Martinique. On est en 1914-15. Peut-être que 70% de la population, déjà même, ne parle pas français. Et les gens qui allaient combattre, ce n'est pas les fils des médecins, des avocats, ni les fils des planteurs des quais, c'était les gens du peuple. Donc ces gens-là étaient des créolophones, je dirais, unilingues, pour la plupart. Donc je me suis toujours posé la question, mais toutes ces lettres qu'Yvon Milton a utilisées, tout ça, qui ont été effectivement envoyées, qui les a écrites vraiment? Parce que bon, je vois mal comment ces soldats auraient pu écrire. Je suppose que dans les régiments, il y avait des espèces d'écrivains publics, je dirais, qui étaient chargés de rédiger les courriers, je suppose.
Oui, puis il y a des instituteurs. Vous avez, oui, un personnage.
Il y en a quelques-uns. Oui.
Un personnage qui a un rôle extrêmement important dans ce roman prémilien.
Voilà, exactement. Ah oui, il y avait quelques lettrés, mais enfin, la population était massivement créolophone. Elle n'est devenue francophone qu'à ma génération. Par exemple, mes deux parents étaient tous les deux instituteurs. Je ne les ai jamais entendus parler français entre eux. Jamais. Ils parlaient français à nous, les enfants. Mais entre eux, je ne les ai jamais entendus parler français. Ils étaient instituteurs. Donc, c'est à ma génération qu'il y a eu le basculement et où le français est devenu la langue principale et le français la langue seconde.
Et le créole la langue seconde.
Le créole la langue seconde. À partir de ma génération qui est née dans les années 50.
Et alors, ce bilinguisme familial, français-créole, est-ce que c'est une des sources de votre écriture, du coup ?
Oui, tout à fait, parce que c'est une situation assez étrange. Quelqu'un vous parle dans une langue et vous lui répondez dans une autre. Mais ça a l'air naturel, mais quand on y réfléchit, c'est pas naturel. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de parler la langue dans laquelle vos parents vous parlent. dans laquelle eux, ils parlent. Vous les entendez parler. Vous comprenez ce qu'ils disent, parce que, bon, on apprend dès l'enfance, hein, pas. Mais vous n'avez pas le droit de la parler.
Vous n'avez pas le droit à l'extérieur.
À l'extérieur, et même à l'intérieur aussi. Je veux dire que, bon, par exemple, ma grand-mère, qui était complètement créolophone, elle me parlait en créole et moi, je lui répondais en français. Et je pouvais dialoguer comme ça avec elle pendant une demi-heure ou une heure, et ça ne me paraissait pas. Ça ne me paraît bizarre à personne. Alors, je sais que les linguistes aujourd'hui parlent de l'intercompréhension, que ce n'est pas la peine d'avoir. Par exemple, les langues latines, il y a des linguistes qui ont développé la théorie qu'on pourrait, par un système d'intercompréhension, faire qu'un Italien parle avec un Espagnol, chacun dans sa langue, et qu'ils se comprennent, sans que l'un ait besoin de. Parce que c'est la même racine. Mais nous, on pratique l'intercompréhension depuis toujours.
Sans
le savoir.
Mais par exemple, quand on écoutait Sophie Bourrel dans l'extrait qu'elle vient de lire, où on découvre, je parle pour moi, heureuseté, l'un d'eux mendianait même aux abords du grand marché. Ces mots-là, heureuseté, mendianait.
Alors ce sont des mots d'ancien français. Ce sont des mots d'ancien français parce que le mouvement littéraire auquel j'appartiens, celui de la créolité, a l'idée suivante. Nous ne devons pas nous cantonner, nous refusons de nous cantonner au français actuel. Pour nous, la langue française commence depuis le roman de Renard jusqu'à aujourd'hui. Et que même si heureuse est un mot du XIVe siècle, peut-être qu'il n'est pas utilisé du tout, mais il fait partie du stock lexical du français. Et nous ne nous interdisons pas de puiser dans le stock lexical du français parce que nous refusons de nous limiter au français tel qu'il est parlé aujourd'hui. Alors beaucoup de gens pensent qu'on invente des mots. Je peux vous garantir que 90% des mots, c'est flatteur, hein, quand les journalistes nous disent « Ah, mais c'est joli, vous avez inventé furibondé, les vagues furibondaient, etc. » Alors nous, on ne dit rien pour se valoriser. Oui, bon. mais c'est pas vrai, on n'a pas inventé furibondé, on n'a pas inventé heureuseté. Voilà. 90% de ces termes sont des termes authentiquement français. Ou alors des termes régionaux, normands ou poitevins, parce que les colons qui sont venus au XVIIe siècle aux Antilles étaient quasiment tous de Poitou-Charentes, de Vendée, de Normandie. Et le créole a intégré beaucoup de mots de ces régions qui ne sont plus compris dans le français d'aujourd'hui. Un mot comme allier, H-A, deux alliés ER, mais quand on dit l'écrivain Jean Hyde en allié, personne en France ne sait que le mot allié est un mot normand qui veut dire buisson. Mais chez nous, oui.
Il y a plusieurs Normands dans la salle qui
Qui confirment, voilà. Mais enfin, à moins d'être Normand, quoi. Bon, mais je veux dire que ce n'est pas un mot du français courant. Ce n'est pas un mot du français actuel. Donc, on réactive à la fois l'ancien français et on réactive certains français parlés d'oil régionaux comme le Normand parce qu'ils ont été intégrés au créole. Et c'est avec ça que nous construisons cette espèce de langue qui, bien sûr, n'est pas parlée à la Martinique. Parce que beaucoup de lecteurs enthousiastes me disent « Ah oui, mais je suis arrivé en Martinique, je croyais que j'allais entendre cette langue, etc. » Et on leur explique que la littérature, bon, que l'auteur invente sa langue, et que c'est une langue inventée. Alors, elle est inventée pour quoi? Elle est inventée pour donner l'illusion du créole. Parce qu'en Martinique, la plupart des gens ne savent pas lire le créole, et même sont créolophobes, ce qui est paradoxal, hein. Bon, et donc, moi, par exemple, j'ai écrit mes premiers livres en créole. J'avais très peu de lecteurs. Et les livres s'empilaient chez moi. Il fallait les publier à compte d'auteur, évidemment. Et les
libraires aussi. J'ai publié d'Aubondier en 1979.
Voilà.
Que vous avez traduit vous-même après en français.
Voilà. Et quand j'emmenais mes exemplaires en librairie avec mon petit sachet pour qu'ils veulent bien accepter de les vendre, ils me retendaient le. Par le sachet dédaigneusement disant nous ne vendons pas ça. Et donc même les libraires à l'époque rejetaient et puis bon. Donc l'écriture en créole, elle continue hein, aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui écrivent en créole avec un lectorat très restreint. Il y a même une licence de créole à l'université. Il y a un CAPES de créole comme il y a un CAPES de breton de basque. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de limité. Alors, on s'est dit, Patrick Chamoiseau, Ernest Pépin, des écrivains de cette génération, comment faire ressentir le créole sans donner la difficulté de lecture? Bien, c'est en traficotant cette langue hein, qui donne au lecteur, et d'ailleurs beaucoup de lecteurs disent « Ah, enfin on est content, on a l'impression de lire du créole, c'est génial et on n'a pas la difficulté de lire, de le lire. »
Oui. Alors on va revenir au texte et je vais... Au lieu de vous poser une question, on va revenir au texte avec Sophie Bourrel.
Plus le navire approchait du continent européen, plus les conscrits faisaient montre d'enthousiasme. Et le refrain de l'hymne créole résonnait à toute heure du jour. Chantons en chœur l'hymne créole, les Guyanais, les Antillais sont fiers d'être soldats français. Pour mettre un terme à ce que le commandant du navire avait qualifié de mascarade, les gradés du bataillon créole entreprirent de donner à ce dernier les premiers rudiments de l'art de la guerre. Cela commença par le démontage et le dressage de fusils, tâches astreignantes et à vrai dire ennuyeuses, qui occupaient une bonne moitié de la matinée, suivie de l'étude de cartes du continent européen et de la Turquie. Frère Jules et ses camarades, qui pour la plupart savaient à peine lire et très peu écrire, en furent grandement intimidés. Le jeune tonnelier de l'usine de Vivet était un as en arithmétique et en géométrie, mais il avait du mal avec les lettres. Rémilien, instituteur de son état, s'employa à tirer ses camarades d'affaires. Chaque après-midi, au lieu de flâner sur le pont arrière du navire, il les rassemblait pour leur faire la classe, ce qui lui valut les vives félicitations des capitaines du bataillon créole. Il leur expliquait également des choses qu'ils n'avaient pas comprises ou qui les avaient intriguées. Avec son immense patience laïque, chose qui faisait que les mères de famille aisées voulaient à tout prix que leur enfant soit inscrit dans sa classe, il dialoguait avec chacun d'entre eux. Théodore, le coupeur de canne à sucre émérite, s'étonnait ainsi de la taille de la mère patrie. Là-bas, ça paraît tellement petit sur les cartes. À l'échelle du continent européen, c'est vrai. Et si l'on inclut la Russie, et... c'est des Blancs qui vivent dans ce pays-là aussi? Oui, bien sûr. La Russie est notre alliée. Et elle est menacée par l'Empire ottoman qui, lui, se trouve en Orient. Ou plutôt, son centre, la Turquie, se trouve hors du continent européen, même si l'on est très proche. À peine quelques kilomètres séparent ce pays de la Grèce. Et les Turcs, C'est des quoi ? Des gens qui ressemblent aux Syriens de chez nous. Vous voyez Jabbar Mansour, ce colporteur qui passe avec sa bouette remplie de colis fichés à travers nos campagnes, quel que soit le temps qu'il fait. Eh bien, entre un Turc et lui, il n'y a guère de différence. La France ne se limite pas aux frontières de l'Hexagone. Elle rayonne sur les 5 continents. La Martinique, située aux Amériques, n'en fait-elle pas partie depuis bientôt 3 siècles? Notre mère patrie peut donc compter non seulement sur nous autres soldats créoles, mais aussi sur ceux d'Afrique noire, du Maghreb, d'Indochine, de la Réunion et de Tahiti. À côté d'elle, l'Allemagne ne peut guère compter que sur l'Empire ottoman, lequel est en pleine déliquescence depuis le début du siècle nouveau, et peut-être aussi la Bulgarie, mais ce pays, à la taille insignifiante, ne représente pas une menace réelle. Tout compte fait, Rémilien se révéla bien meilleur instructeur, sauf pour le maniement des armes, que les 2 capitaines qui étaient en charge du bataillon créole. Du reste, ils finirent par se délester de leurs tâches sur sa personne, tout en le couvrant de compliments flatteurs et l'invitant parfois à dîner aux messes des officiers. La fin du voyage se révéla plus agréable pour les conscrits martiniquais, car la mer s'était calmée à l'approche du continent européen. Le navire avait frôlé les côtes de Vigo en Espagne, avant de remonter le long de l'Aquitaine, puis la Vendée et enfin la Bretagne. L'instituteur Rémilien, passionné de géographie, suivait sa progression sur des cartes et renseignait au fur et à mesure ses camarades déjà gagnés par l'excitation. Chacun avait grand hâte de poser le pied sur cette terre qu'on ne pourrait plus appeler là-bas, cette terre rêvée, fantasmée même, mais qui se révéla bien grise au moment où le navire entra en rade de Brest et que sous une pluie battante, on divisa le bataillon créole en groupes d'une 50aine de soldats qui embarquèrent à bord d'autobus afin d'être conduits dans les différents casernements de la région parisienne où l'état-major les avait affectés. Comme par prémonition, au moment de se séparer, Rémilien serra longuement les mains de Frère Jules, avec lequel, à grand sens, il n'avait jamais entretenu de lien d'amicalité particulier.
Merci Sophie Bourret. Donc on est au milieu du roman, chapitre 7. Qu'est-ce qu'on appelait exactement le bataillon créole ? Est-ce que c'est ce contingent qui part ? Là on les voit, ils sont à bord du Champagne. Et après ils vont rejoindre, je crois, d'autres bataillons ou d'autres corps d'infanterie. Il n'y aura pas un bataillon créole constitué en tant que tel, comme bataillon de combat ?
Alors le nom bataillon créole, c'est le nom officiel donné par l'armée française. Mais comme les soldats n'étaient pas suffisamment nombreux par rapport aux goumiers marocains, par exemple, ou aux soldats africains, le bataillon créole a été divisé en petites unités et ils ont été placés, n'est-ce pas, dans d'autres unités. Mais il n'y a pas eu un bataillon créole composé uniquement de soldats des Antilles, de la Réunion, de la Guyane. Ils n'étaient pas assez nombreux pour constituer un bataillon. Mais le nom a perduré quand même. On disait un tel du bataillon créole numéro tant, etc.
Donc on les voit partir, plein d'idéal pour ce là-bas. Hein. Évidemment, ils vont déchanter. Qu'est-ce que vous avez appris vous-même à travers votre enquête sur ce qui s'est joué lors de cette rencontre, finalement, ce contact ?
Mais c'est le contact entre des gens qui viennent d'un pays tropical. Déjà, il y a le choc climatique, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qui est brutal. Hein. Il y a le fait que les gens ne sont pas parfaitement francophones pour la plupart. Hein. C'était créolophone, donc il y avait déjà la difficulté de compréhension de la langue. Et puis, il y a le fait qu'ils sont tout de suite placés sur les champs de bataille. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de découvrir le pays. Ils s'imaginaient certainement qu'ils auraient eu un laps de temps pendant lequel on les acclimaterait, etc. Alors il y a ceux qui sont tombés malades et qu'on a envoyés dans le sud et en Tunisie, et ceux qui ont résisté et qui tout de suite ont été envoyés sur les champs de bataille. Donc ça a été certainement un choc, hein, d'après tous les témoignages de gens que j'ai pu avoir, de leurs grands-parents ou leurs parents, disaient que c'était un choc terrible parce que la guerre, vous ne l'imaginez pas quand vous êtes si loin. Vous ne l'imaginez pas du tout. Et là, on vous met dans un bataillon et quelques jours après votre arrivée, vous êtes confronté au gaz moutarde, à la grosse béanta, et à toutes ces choses. Vous voyez des gens tomber comme des mouches. Vous êtes dans des tranchées où il fait froid, où il y a des rats, où la nourriture est mauvaise. C'est un choc terrible.
Et puis, bon, ils étaient un peu regardés comme des bêtes curieuses.
Oui, tout à fait, parce que, bon, à l'époque, bon, il n'y avait, pas d'antillais en France, de toute façon. Pas d'étrangers, je dirais, très peu. En tout cas, pas d'étrangers non européens. Donc, les conscrits gaulois, entre guillemets, si je peux employer un anachronisme.
Blanc.
Voilà, les ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, à titre de soldat français. Puisque bien sûr, ils ne connaissaient pas les Antilles. Ils ne savaient pas que les Antilles étaient françaises avant Nice, avant la Savoie, avant la Corse. Avant... Et donc, ils se disaient, mais c'est qui ces gens qui viennent se battre, qui ont de l'enthousiasme pour se battre en plus. Ils trouvaient ça bizarre. Et donc, c'est un choc culturel, quoi, aussi. C'est un choc culturel, parce que, bon, la culture créole était très forte à l'époque. Et donc, ces gens venaient avec leurs croyances, avec un imaginaire différent. Et sans période d'acclimatation, même pas climatique, mais même culturelle, ils étaient jetés sur les champs de bataille. Et donc, je me demande si c'est pas ce qui a fait qu'à leur retour, pour ceux qui s'en sont sortis, ils ont préféré ne pas trop en parler. Ça m'a frappé qu'il y a quand même peu de témoignages par les fameuses lettres qu'ils envoyaient quand ils étaient sur le front. Aucun d'eux n'a pris la plume, par exemple, pour rédiger ses souvenirs de guerre. Vous avez dit qu'il y avait des instituteurs, il y avait quand même une partie de ces soldats qui savaient lire et écrire. Et aucun n'a couché sur le papier, malheureusement. Ça aurait été formidable de savoir la participation des Antillais à la bataille des Dardanelles en Turquie. Ça aurait été extraordinaire. Moi, j'ai dû l'imaginer complètement.
Timano, par exemple, qui va raconter, on le verra tout à l'heure avec Sophie, ça, c'est imaginé.
Ah ben oui, parce que, alors, monsieur, c'est imaginé à partir de la véritable bataille des Dardanelles. Je me suis renseigné sur la bataille des Dardanelles, etc. Et puis, j'ai imaginé les Antillais qui combattaient. Mais aucun soldat antillais revenu des Dardanelles n'a pris la plume pour écrire. Ils en ont fait certainement des chansons, puisque je vous ai dit que ce mot figure dans plusieurs chansons antillaises.
Oui, la bataille des Dardanelles, donc ça c'est le petit point historique, hein, si vous regardez Wikipédia ou d'autres sources plus recommandables peut-être, également appelée campagne de Gallipoli, fut un affrontement de la Première Guerre mondiale qui opposa l'Empire ottoman aux troupes britanniques et françaises dans la péninsule de Gallipoli, dans l'actuelle Turquie, du 25 avril 1915 au 9 janvier 1916, et qui s'est soldé par une victoire ottomane.
Oui, une défaite terrible, c'est-à-dire que bon, les Ottomans avaient fait des lignes de fortifications infranchissables, et les Franco-Anglais se sont cassés les dents sur le front turc, hein, complètement, et beaucoup de soldats antillais sont morts lors de cette bataille. Enfin, elle n'a pas duré un jour, hein, elle s'est déroulée pendant plusieurs mois, mais jamais l'Empire ottoman n'a cédé, et ça a été une défaite, on ne le dit pas assez, hein, mais c'était une défaite de l'armée franco-anglaise.
Alors, on vous le dites, hein, on sent bien ce souci que vous avez de peindre la mentalité des petites gens, hein, le point de vue de la Martinique, des Martiniquais sur ce conflit. Est-ce que ces soldats, ces poilus martiniquais qui sont partis, sont revenus comme des héros?
Alors, comme des héros, oui, parce qu'il y avait des manifestations patriotiques régulières, hein, des défilés, des remises de médailles devant les monuments aux morts. Mais comme beaucoup sont revenus éclopés, ben c'est l'expression « gueule cassée », elle a vite traversé l'Atlantique, hein, même s'il n'y avait pas d'avion à l'époque. Et bon, quand vous revenez avec un bras en moins, un œil en moins, vous êtes éclopé, vous avez beau avoir une vareuse avec 25 médailles dessus, vous ne portez pas beau, comme on dit. Hein. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés les gueules cassées, d'ailleurs, ici. Hein, parce que c'est une guerre effroyable. Aujourd'hui, bon, vous mourrez sous un missile, bon, vous disparaissez complètement, quoi. Vous êtes mort ou vous en sortez. Tandis que là, les armes qu'il y avait à l'époque faisaient qu'on ne mourait pas forcément, mais on était tellement abîmés que quand on revenait de la guerre, bah, il n'y avait pas de quoi faire le fier. Hein. Donc les soldats qui revenaient, bon, d'après les témoignages que j'ai eus, ils étaient contents les jours de célébration patriotique, avec leur vareuse, leur médaille, mais autrement dans la vie quotidienne, ils étaient souvent la risée, comme en France d'ailleurs, les gueules cassées, ils étaient souvent la risée de la population.
Alors, à propos des gueules cassées, et à propos des béquets, je suis tombé sur un personnage, non pas dans le roman, mais dans l'histoire martiniquaise, parce que vraiment, après la lecture du roman, il fallait que j'aille un peu plus loin, je suis tombé sur Hippolyte Morestin. Hippolyte Morestin, né le 1er septembre 1869 à Basse-Pointe, mort en 1919, donc pendant le conflit, l'un des fondateurs de la chirurgie réparatrice maxillofaciale, c'est-à-dire il était chirurgien.
Tout à fait.
C'était un Martiniquais chirurgien qui a directement laissé son nom sur un des aspects essentiels de cette première guerre, c'est-à-dire la chirurgie maxillofaciale, comment réparer les gueules cassées.
Tout à fait, tout à fait.
Est-ce que ça ne vous a pas tenté d'en faire un personnage, bien que...
Alors je dois vous dire que c'est après que j'ai connu l'existence, et c'est avec regret, parce que je ne savais pas qu'il y avait ce chirurgien qui avait acquis cette renommée extraordinaire et qui avait inventé, paraît-il, des techniques, pas paraît-il, c'est sûr, hein, oui. Des techniques de réparation, mais c'était un mulâtre martiniquais, et bon, c'est tout récemment que j'ai appris l'existence de ce personnage, que j'aurais bien aimé avoir introduit dans le livre, mais bon, il m'a échappé. Hein,
oui, parce que je crois qu'il ne faisait pas partie, même comme béquet, de l'élite économique béquet.
Alors, c'était pas un béquet, hein, c'était un mulâtre. C'était pas un béquet. Et bon, je ne sais pas pourquoi son nom n'est pas resté, mais oui. Bon, vous savez, dans nos pays, on a la mémoire courte. Hein. Par exemple, nous avons eu beaucoup plus tardivement, au XXe siècle, un Martiniquais, président de l'Académie de médecine dentaire, par exemple. Nous avons eu beaucoup de Martiniquais à la Pitié-Salpêtrière pendant longtemps. Le cardiologue en chef était un Martiniquais, etc. Donc il y a eu beaucoup de Martiniquais qui ont accompli des choses assez étonnantes venant d'un si petit pays et dont la mémoire n'a pas été maintenue. Donc Morestin, c'est ça. Moi, il n'y a même pas un mois que j'ai appris son existence dans un journal, au détour d'un journal, et j'étais complètement stupéfait. J'ai été chercher hein, Wikipédia partout, je découvre ce Martiniquais.
Voilà, il est dans Wikipédia.
Qui a inventé des techniques de réparation faciale pour les blessés de guerre, et puis décrit toutes les techniques et tout. Mais personne en Martinique ne le connaît. C'est quand même...
Mais il se peut qu'il se retrouve dans un de vos prochains romans, même si, même si ce n'est pas sur le premier conflit mondial.
C'est possible, parce que c'est quand même un personnage extraordinaire.
Oui, puis on peut en venir à cette écriture-là. Il y a 5 cercles. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas dans le premier roman que vous écrivez avec des cercles. Oui. Ce n'est pas que des chapitres, il n'y a pas que 20 chapitres. Il y a des cercles où on retrouve, où on voit que la chronologie n'est pas la... La ligne directrice rigide, disons. Hein. Pourquoi des cercles ? Expliquez-nous. Parce que du coup, on retrouve les Syriens qu'on a déjà connus dans un autre roman, même si ce ne sont pas les mêmes Syriens. On retrouve l'éruption de la montagne Pelée, qui était dans Nuée Ardente. Hein. Et là, on les retrouve aussi à l'intérieur du roman, où ça vient, où ça revient, etc. Pourquoi ces cercles ? Comment ? Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu de ces cercles ?
Eh bien, c'est une manière pour moi de... calquer, je dirais, la mémoire populaire et l'imaginaire populaire, qui n'est pas du tout un imaginaire linéaire et qui n'est pas un imaginaire chronologique. Et donc, j'ai trouvé ça plus intéressant d'essayer de calquer cet imaginaire de cette façon, parce que ça correspond mieux à la temporalité antillaise, en tout cas la temporalité traditionnelle. Une vision un peu cyclique des choses. Et la plupart de nos auteurs avant la créolité, avant Glissant en tout cas, écrivaient de manière linéaire. C'est-à-dire qu'ils imitaient le roman classique européen avec un début, un milieu et une fin, etc. Ben, souvent, ce n'était pas mauvais, c'était... mais ça faisait artificiel quelque part. Et donc, parce qu'il faut bien comprendre que notre manière d'écrire, à nous de la créolité, les auteurs de la créolité, c'est une manière d'écrire qui veut prendre appui sur l'imaginaire populaire. C'est-à-dire briser les canons du roman classique européen, tout en s'en inspirant, bien sûr. Hein, parce qu'on ne parle pas de rien. Mais en essayant de faire une espèce de greffe entre, je dirais, l'architecture classique du roman européen et puis la décoration intérieure qui serait créole. C'est pour ça qu'on a cette expression « habiter la langue française de manière créole ». C'est une expression qui revient souvent dans nos débats, dans nos discussions. L'architecture reste quand même une architecture romanesque selon les canons classiques européens, mais l'intérieur est quand même bâti différemment, je dirais. Et quant à ce qui a trait à la temporalité, chez nous, les dates ne sont pas des dates, par exemple. Les dates, mais ça c'est toutes les cultures populaires. Les dates sont des événements. Donc on va dire avant le cyclone, après le cyclone machin, avant... Mais on ne va jamais dire 1914, on ne va jamais dire 1945. Par exemple, en Martinique, on appelle la période de guerre 1939-45 le temps Robert.
Alors pourquoi Robert ?
Parce que l'amiral s'appelait Robert. Donc c'est le temps Robert, ou on dit le temps de l'amiral Robert, mais on ne va pas dire 1939-45. Donc déjà au niveau de la datation, ça devient imprécis, puisqu'on ne donne pas de chiffres. Et puis vous connaissez la mémoire populaire, une fois qu'elle s'est emparée d'un événement, elle l'embellit, la transforme, la modifie. Alors on pourrait dire d'un point de vue rationnel qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie, je dirais. Mais la littérature ne fonctionne pas dans la rationalité. Et puis l'irrationalité fait partie de la vie.
Ah, c'est pas un roman historique, mais du coup quand même on peut découvrir des dates, excusez-moi du terme, mais marquantes. Hein, par exemple 1900, c'est la grande grève. Il y a une grande grève.
Tout à fait.
Ainsi que le lecteur peut-être à se dire...
Les gens l'appellent la grande grève, c'est moi qui ai mis 1900. Oui. Mais dans la mémoire collective, les gens l'appellent la grande grève.
Il y a l'éruption, 8 mai 1902. Ouais. Et puis, il y a 1911, la limite de l'émigration à Panama. Donc, on apprend, on le sait, mais voilà, Panama, c'était la construction du canal.
Tout à fait. Beaucoup de Martiniquais sont partis, toujours aussi pour fuir la plantation. Hein. Et puis bon, appâté par l'aventure, l'or, Panama, ça fait rêver. Hein. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont déchanté très vite parce que ce chantier a été quelque chose d'épouvantable, pas seulement pour les Martiniquais, puisque des dizaines de milliers de gens de toutes sortes de pays sont venus participer à la construction du canal de Panama et dans des conditions de travail effroyables. Et non seulement du point de vue sanitaire, parce qu'il y avait la malaria, il y avait toutes sortes de maladies tropicales très dangereuses, mais aussi les conditions de travail. Par exemple, quand on dynamitait les collines pour tracer le canal, souvent des travailleurs se retrouvaient ensevelis sous des tonnes de gravats. Et donc, beaucoup de Martiniquais sont partis... construire le canal. Certains sont revenus, mais il y a une colonie martiniquaise qui est toujours à Panama, les descendants de ces gens, et qui sont en voie de disparition, enfin de disparition, non, d'assimilation à la culture panaméenne. Mais dans notre imaginaire, Panama a compté parce que beaucoup de jeunes gens sont partis. Il y a eu l'appel de Ferdinand de Lesseps, hein, le constructeur du canal, appelant, c'est une œuvre universelle, donc il faut que le monde entier participe à la construction de ce canal transocéanique qui allait bouleverser, qui a bouleversé d'ailleurs l'économie du monde. Donc cet appel a été aussi entendu en Martinique. Et voilà.
Pour revenir aux poilus, au front cette fois, est-ce que vous avez eu la tentation d'en faire des héros pendant le combat? Parce qu'on ne les voit pas comme ça quand ils sont au combat. Ils souffrent comme tous les autres. Quelques-uns peut-être en plus soumis au racisme de leurs compatriotes français. Mais vous n'en faites pas des héros qui mènent le combat et qui sont devant tout le monde.
Non, parce que c'était des supplétifs. Les troupes coloniales étaient des supplétifs. Il faut bien comprendre que c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale que l'armée française a envoyé en première ligne les coloniaux, les soldats coloniaux. Et massivement d'ailleurs, dans la Seconde Guerre mondiale. Mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était des supplétifs, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas toujours au premier rang. Donc en faire des héros... Il n'y a pas de nom de héros de la guerre 14-18 qui se soit imposé, en tout cas pas au niveau des Antilles. Et j'ai voulu montrer leur quotidien dans les tranchées, par exemple. J'essaie d'imaginer vraiment ces gens dans ces tranchées, dans des conditions effroyables, quoi, de froid, de mauvaise alimentation, de bombardement de l'ennemi, etc. Et ça, c'est suffisamment héroïque de survivre à ça, je suppose, parce que quand on voit les films de l'époque et puis qu'on voit comment les gens vivaient dans les tranchées, il y a quelqu'un qui m'a raconté que son grand-père était tout le temps affamé. Alors je lui ai dit, mais pourquoi il était affamé? Est-ce qu'on ne livrait pas la nourriture aux soldats antillais? Il me disait qu'ils étaient tellement épuisés qu'ils s'affaissaient dans la tranchée et que des colonies de rats venaient dévorer leurs rations. C'est terrible. C'est-à-dire que vous êtes là en permanence à bombarder, on vous bombarde, etc. Et puis au bout d'un moment, ben, vous êtes crevé, vous dormez, quoi, même si c'est en plein jour. Mais de l'autre côté aussi, du côté des Allemands. Hein. Ouais. C'est une guerre terrible. C'est peut-être la guerre la plus terrible qui se soit déroulée, dans l'époque moderne en tout cas. Et donc, d'épuisement dans la tranchée, ils dormaient. Et les rats venaient, ils bouffaient. Quand ils se réveillaient, ben, il n'y avait rien à manger. Ça m'a vraiment frappé, cette chose. Ouais. J'ai trouvé des témoignages sur des soldats de l'Hexagone, hein, qui racontent les mêmes choses, quoi. Des colonies de rats dans les tranchées. Alors ça, c'est suffisamment héroïque de résister à ça. Bon, je pense. Hein.
On va en venir dans un instant à Timano avec Sophie Bourrel, mais il y a ce passage sur... le front, justement, où là, en face, un des personnages se venge sur les Teutons, sur les Allemands. Et là, il voit en face le blanc, et vous le décrivez comme quelqu'un à qui remonte toute cette oppression, justement, due à la période esclavagiste et au système, la plantation, des béquets, etc. Est-ce que ça, c'était dans les lettres? Est-ce que c'est votre imaginaire? Comment ça s'est passé?
C'est-à-dire que je l'ai déduit de divers témoignages que j'ai eus, mais il faut bien comprendre que c'est historique. Pendant 3 siècles, l'esclavage s'est déroulé de manière féroce. Hein. C'est-à-dire que des Africains ont été amenés aux Antilles pour couper la canne. Et les Blancs avaient le droit de vie et de mort sur eux. D'abord, leurs femmes étaient régulièrement violées, hein, puisque les colons n'amenaient pas de femmes. On a des lettres de colons à Richelieu disant « Mais envoyez-nous des femmes. » Et Richelieu, ne trouvant aucune femme digne de ce nom, faisait sa police capturer des prostituées sur les quais de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, et les expulsait aux colonies. Et quand il n'en trouvait pas assez, il kidnappait des jeunes filles de 14-15 ans dans les orphelinats, qui à l'époque étaient nombreux, parce que l'espérance de vie n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Et on envoyait ces jeunes femmes colonies, pendant la période coloniale, pendant les 3 siècles, mais ce n'était pas suffisant. Donc les colons, ben, ils étaient obligés, entre guillemets, de se rabattre, je dirais, sur les femmes esclaves, sans leur demander leur avis, bien sûr, ce qui fait que la population martiniquaise est aussi métissée. Hein. C'est... Il n'y a pas eu d'Obama pendant 3 siècles. C'est-à-dire, homme noir, femme blanc. Il n'y a jamais eu d'Obama chez nous en 3 siècles. Les métis qu'il y a eu, c'était des métis hommes blancs, femmes noires. Et jusqu'à aujourd'hui, aux Antilles, le couple homme blanc, femme noire ne choque personne. C'est-à-dire que ça ne présente aucun intérêt. C'est parce que c'est quelque chose qu'on a vu depuis 3 siècles. Mais moi, j'ai souvenir enfant de la première fois où j'ai vu un noir avec une femme blanche. Je devais avoir 10 ans dans ma commune du nord de la Martinique. On était habitué à voir des hommes blancs et des femmes noires, mais ça, c'était normal. Et cet homme était un ancien marin. Il était revenu à la retraite avec sa femme. Et ça a fait une quasi-émeute dans la commune, de stupéfaction et même d'indignation. Mais comment, mais il peut se permettre, bon, il a été ostracisé, personne ne lui parlait tellement c'était choquant, quoi. Donc il faut bien comprendre que pendant 3 siècles et demi, non seulement il y avait ce couple homme blanc, femme noire, hein, et puis le droit de vie et de mort, c'est-à-dire que dans le code noir de 1685 qui réglait l'esclavage, hein, le code civil de l'esclavage et le code pénal de l'esclavage, je dirais, un esclave marron, c'est-à-dire qui partait, qui s'enfuyait de la plantation, pouvait être tué. Un esclave qui frappait son maître pouvait être tué. Donc, le colon blanc avait le droit de vie et de mort sur son esclave pendant 3 siècles. Donc, vous imaginez la tonne de frustration que ça a pu engendrer chez l'esclave qui voit que sa femme n'est pas sa femme, puisque c'est la femme du colon, en fait, hein, et qui voit que ce colon a droit de vie et de mort sur lui. Alors vous allez me dire, oui, mais l'abolition de l'esclavage, c'est 1848, et les choses changent. Non, les choses ne changent pas. Parce que si aux États-Unis, on a donné à chaque esclave libéré 12 acres de terre et un mulet, la compagnie cinématographique du cinéaste noir américain Spike Lee s'appelle 22 Acres and a Mule. C'est-à-dire, bon, mais c'est un peu normal, c'est grand les États-Unis, donc on peut donner à chaque esclave quelque chose pour repartir dans la vie. Chez nous, c'est trop petit, donc les blancs créoles, les béquilles, ils ont gardé l'intégralité des terres. Ils ont dit, ben, vous êtes libres, allez, démerdez-vous. Et ils ont exigé que la République française les dédommage de la perte de leurs esclaves. Oh là, c'est un culot monstre, quoi. Et la République les a dédommagés de la perte de leurs esclaves. Vous vous rendez compte? Et donc, les esclaves, ils n'avaient comme autre solution que de revenir travailler comme ouvriers agricoles, cette fois-ci, sur les mêmes plantations sur lesquelles ils étaient esclaves. Donc, rien. Donc, dans la guerre, le fait pour un soldat créole de tuer un blanc, c'est quelque chose d'inimaginable, quoi. Et il a l'autorisation de le faire. donc il y a quand même une stupéfaction, quoi. Bon, c'est l'ennemi allemand, bon, on le tue, mais il y a une espèce de sourde revanche. On a l'autorisation de tuer. Bon.
On reviendra là-dessus. On va d'abord repasser par le texte. On se retrouve au cinquième cercle avec Timano, une lecture par Sophie Bourrel.
Rapatrié à la Martinique après ses faits d'armes sur le front d'Orient, auréolé de ses médailles, et surtout parce qu'il en était revenu indemne. Pas une blessure, même pas une égratignure, juste un petit quelque chose à la hanche. Timano ne fut pas pressé de retrouver son job d'éboueur municipal à Grand-Anse. En ce tout début d'année 1917, la guerre était encore loin d'être achevée, mais cela ne le préoccupait guère, car il avait le sentiment d'avoir accompli son devoir, quand bien même l'incomparable joueur de tambour n'avait pas payé l'impôt du sang comme nombre de ses camarades. Il avait été accueilli en héros sur le port de Fort-de-France, tout comme d'autres chanceux, encore que ce terme ne fût pas tout à fait exact. Il y avait ceux qui n'avaient pas supporté l'hiver sur le front européen et avaient passé leur temps à l'infirmerie, terrassés par des engelures, grippes, bronchites et même pneumonie. Ceux-là n'avaient pas tiré un seul coup de fusil et en éprouvaient de l'amertume. D'autres s'étaient, eux, battus dans la Somme, dans la Marne, à Verdun ou en Belgique. Et il y avait laissé qui un bras ou une jambe, qui les yeux ou une partie de la mâchoire. Et, final de compte, ceux que la déveine avait frappés et qui rentrait au pays à fond de cale, allongé dans un cercueil que l'on n'ouvrirait pas tellement leur corps avait été ravagé. Timano se mit donc à parader à travers les rues de l'Anville, oubliant que 3 ans plus tôt, il n'avait pas répondu à l'appel du conseil de révision alors même que ce dernier s'était réuni à la mairie de Grandanse. Ce jour-là, les principales rues du bourg n'avaient pas été nettoyées et le docteur Jean Préval avait piqué une grosse colère. Alors qu'il souhaitait présenter sa commune sous son meilleur aspect aux gras des blancs et surtout à leur chef, un médecin spécialiste des maladies tropicales, voici que l'éboueur municipal avait disparu. En catastrophe, on réquisitionna ses deux collègues, chargés, eux, des quartiers excentrés, lesquels acceptèrent de pallier son absence de fin mauvais gré. Timano avait cogné son tambour l'entier de la nuit à l'occasion d'une soirée de bel air. Aussi n'assista-t-il pas à la deuxième colère du maire, celle qui faillit lui faire faire une congestion, une colère qui deviendrait légendaire, que l'on raconterait des années et des années plus tard dans les cases à Rome. En effet, des grappes de jeunes nègres, apparemment vaillants, avaient déboulé des campagnes. De Morne-l'Étoile, de Macédoine, de Morne-Capot, de Moreau. Ils étaient si nombreux qu'on leur demanda de s'aligner par deux dans la salle des fêtes, transformée pour l'occasion en cabinet de consultation. Ses binocles lui tombant sur la pointe du nez, l'air maussade, le médecin militaire maniait son stéthoscope comme une sorte de prestidigitateur, demandant aux futurs conscrits d'ouvrir la bouche avant de leur palper les côtes et les jambes. Et les sentences de tomber comme des couperets. Eugène Lafarge, réformé pour anémie. Roger Saint-Martin, ajourné pour hypertrophie cardiaque. Victor Bellemin, réformé pour hernie ombilicale. Alors, grande stupéfaction, ces hommes qui coupaient la canne de grand matin jusqu'au mi-temps de l'après-midi sans jamais demander le moindre « tant pris, s'il te plaît », sans jamais mollir d'une maille. Ces bougres qui, une fois le travail terminé, trouvaient force et courage pour cultiver leur jardin créole ou danser au son des tambours déchaînés, se voyaient réduits à l'état de femmelettes, pire, de petites marmailles. Et puis ça rimait à quoi tous ces noms bizarres qu'égrenait ce docteur blanc qui n'impressionnait personne malgré ses épaulettes ? Hydrocèle, cachexie, ankylostomiase, comme si la jeunesse masculine de Grandanse recélait toutes les maladies du monde. Après qu'une trentaine d'entre ses membres avaient été rejetés, c'est-à-dire soit réformés, soit exemptés, soit ajournés, et que seuls deux furent déclarés bons pour le service armé, le docteur Jean Préval, qui assistait au conseil de révision en tant que maire, explosa. « Je suis médecin, moi aussi. Je ne peux pas vous laisser faire ça. La plupart de ces garçons sont mes patients. Et s'ils étaient affectés par les maladies que vous leur attribuez, je le saurais. Monsieur, il s'agit d'une opération organisée par l'institution militaire et par elle seule, rétorqua calmement le gras des blancs. Vous avez le droit d'y assister en tant que premier édile de cette commune, mais votre titre de docteur ne vous donne aucun droit sur les décisions que nous prenons. Aucun. » Un murmure des approbateurs accueillit ces propos. La foule des aspirants fantassins n'avait cessé de grossir. Et les agents municipaux éprouvaient le plus grand mal à faire ces derniers s'aligner dans une salle devenue soudain trop petite. Les cinq soldats, tous européens, qui accompagnaient les médecins militaires, semblaient de plus en plus nerveux. Ils avaient les mains crispées sur leurs fusils et jetaient des regards inquiets à droite et à gauche. Le docteur Jean Préval grimpa alors 4 à 4 l'escalier menant au premier étage de la mairie pour en redescendre, la veste drapée d'une écharpe tricolore. « Vous êtes ici dans la maison du peuple, » s'écria-t-il, pointant du doigt le gras des blancs. « Nous vivons en démocratie et c'est le peuple qui décide. Vous autres militaires devez obéissance et respect aux élus de la nation. Je vous somme d'examiner à nouveau les jeunes gens que vous avez rejetés. » Une salve d'applaudissements accueillit cette tirade grandiloquente, laquelle ne fit ni chaud ni froid au médecin militaire qui redressa ses binocles et se mit à sourire. « Vos éclopés tiennent tant que ça à se faire écharper sur les champs de bataille d'Europe. Fort bien. Il s'agit d'aller défendre la patrie, monsieur. Eh bien, allons-y pour la patrie alors. Ramenez-moi ceux qui ont déjà passé la visite. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous demanderai toutefois, monsieur le maire, de faire preuve de calme et de courtoisie à mon endroit. Plusieurs d'entre les exemptés et ajournés furent cette fois acceptés et, fous de joie, se mirent à danser la bamboula dans la mairie en chantant à tue-tête des chansons qui promettaient de scalper l'ennemi teuton. L'éboueur municipal n'avait pas, lui, été habité par pareil enthousiasme, bien au contraire. Il avait embarqué dans le port de Fort-de-France la peur au ventre, se doutant bien que l'entraînement sommaire qu'il avait reçu au camp de Balata ne lui serait pas d'un grand secours sur le champ de bataille. N'ayant jamais manié d'autre outil que le balai, la pelle et la brouette, il s'était montré fort maladroit quant au démontage et remontage de son fusil et n'avait guère apprécié les engueulades de cet adjudant européen affecté à la formation des nouvelles recrues. « Vous êtes abrutis ou quoi ? Ah là là ! Je me demande bien ce qu'on fera avec des types comme vous qui savent à peine lire et écrire. Soldats des colonies, dit-on en haut lieu, quelle plaisanterie ! Vous n'êtes qu'une bande de troufions tout juste bon, appelée des patates. Au premier coup de feu des frics, vous vous mettrez à détaler comme des lapins. » Mais en son fort intérieur, Timano reconnaissait avoir bénéficié d'une chance inouïe, car son destin avait d'abord emprunté une mauvaise route. Au dernier moment, tous les soldats créoles stationnés dans le Midi, dont la santé s'était rétablie, furent affectés dans des compagnies qui s'en allaient combattre sur le front d'Orient. Les autres partirent mener la belle vie en Tunisie ou en Algérie. L'éboueur pesta contre sa sottise. Il aurait dû feindre d'être encore malade. Son équipée dans le Bosphore s'était pourtant bien achevée, même si le dragueur de mine sur lequel il avait embarqué, le Bouvet, avait été détruit. « Je ne peux pas injurier l'amendement du bon Dieu, » répétait-il dans les caboulots de l'Anville qu'il s'était mis à hanter au lendemain de son arrivée au pays natal. « Il a veillé sur moi, messieurs, dames, et je m'en veux de m'être toujours montré un sacré modèle de mécréant. Aller à la messe, ça avait toujours été une couillonnade de bonne femme à mes yeux. Et au catéchisme, je n'avais jamais pu retenir que les tout premiers mots du Notre Père et du Je vous salue Marie à la grande colère du Père Beauvais, notre curé. Grâce à cette guerre, j'ai changé du tout au tout. Croyez-moi ou pas, désormais, chaque beau matin, je fais un petit tour à l'église pour aller déposer un cierge au pied de la croix. »
Alors on verra en quoi Timano a changé du tout au tout dans la prochaine lecture. Les conscrits martiniquais sont partis faire la guerre. Est-ce que ça a changé quelque chose en Martinique? Je pense à cette idée de ce principe d'égalité, d'assimilation. On va là-bas parce que effectivement c'est la mère patrie et on va se battre contre les Allemands. Est-ce que on est égaux finalement, mais est-ce que ça a été une telle boucherie qu'il y a eu remise en cause de ce principe d'égalité, d'idéaux et du rapport à la mère patrie, entre guillemets?
Eh bien, il faut savoir que il y a une expression très curieuse qui a prévalu dès le début des hostilités. Il fallait que les Antillais payent l'impôt du sang. Payer l'impôt du sang. Expression très curieuse. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que les Antillais doivent mourir sur le champ de bataille pour remercier la France de les avoir accueillis comme citoyens français. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, les esclaves sont devenus des citoyens. Ils ont eu des noms français et ils ont eu pas les mêmes droits exactement, mais enfin bon, ils étaient citoyens français. Donc la population s'est imaginée que participer à toutes les guerres faites par la France était un moyen de lui rendre ce qu'elle lui avait donné. C'est ce qu'on a appelé l'impôt du sang. Et les Antillais n'ont jamais cessé, guerre d'Algérie, enfin bon, guerre d'Indochine avant, hein, guerre du Tchad, enfin guerre de toutes les guerres, hein, de participer à cela. Et avec cette idéologie de l'impôt du sang, qui aujourd'hui nous paraît curieuse. Parce que c'est quand même pas les Africains qui ont demandé à être transportés en Amérique. C'est pas eux qui ont demandé à être mis en esclavage. Et donc ils n'ont pas à remercier ceux qui les ont libérés de l'esclavage. Je veux dire, du point de vue purement logique, hein, il y a quand même un problème, là, du point de vue logique. Mais la vie n'est pas logique, elle n'est pas rationnelle. Et donc, oui, l'impôt du sang, les gens percevaient ça comme un impôt du sang. On va verser le sang pour remercier la mère patrie de nous avoir accueillis dans son giron. Alors, vous me demandez, est-ce que
l'expérience de la guerre a remis en cause tout ça ?
Non, ça n'a pas remis en cause cette chose, parce qu'on savait très bien, les journaux arrivaient hein, à l'époque, qu'il y avait eu une quantité effroyable de morts, y compris en France. Donc les soldats antillais n'avaient pas été envoyés spécialement à la boucherie, quoi. Et que cette boucherie qui était la guerre, ben, elle avait frappé les Bourguignons, les Provençaux, les pareil, quoi. Donc ça n'a absolument pas remis en cause la chose, mais il y a eu un petit événement qui a fait trembler la population, c'est que le bruit a couru que la France voulait donner les Antilles et la Guyane aux États-Unis en remboursement de la dette de guerre. Et il y a eu une terreur dans la population parce qu'à l'époque, les gens, pour eux, les États-Unis, c'était le pays le plus raciste du monde, le Ku Klux Klan, etc. Donc, ça a vraiment causé un émoi. Et ça s'est répété lors de la Seconde Guerre mondiale, où le bruit a à nouveau couru, mais là, il était beaucoup plus concret. Hein. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont demandé à la France de leur donner les territoires des Amériques en remboursement de la dette de guerre. Là, pour la Deuxième Guerre mondiale, ça a été très, très précis. Mais dans l'imaginaire antillien, les États-Unis sont vraiment un endroit abominable, et c'est complètement fantasmatique. Hein. Mais, bon... ça a été vécu comme une trahison. Voilà. Mais comment on est allé se battre sur les champs de bataille, dans la Somme, à Verdun, dans les Dardanelles, et voilà que maintenant, vous nous donnez aux Américains sans vergogne. Donc, là, oui, il y a eu un sentiment de trahison. Il y a eu même eu des manifestations dans les rues, patriotiques, avec des drapeaux et tout, pour dire non à la sécession aux États-Unis.
Alors, avec Sophie Bourrel, on va voir en quoi Timano a changé... lors de cette Première Guerre mondiale.
Timano n'avait pas seulement retrouvé le chemin du Seigneur au cours de son séjour de l'autre côté de l'Atlantique. Il avait réappris à lire à Marseille, grâce aux leçons dispensées aux tirailleurs sénégalais et aux autres soldats des colonies, et en tirait une grande fierté. Pour le prouver aux incrédules, et surtout pour épater la gente féminine, il prenait plaisir à déchiffrer à haute voix les affiches qui tapissaient les murs de Fort-de-France. Sa préférée étant une fort ancienne, délavée par la pluie, qui datait du tout début de la guerre, 3 ans plus tôt, collée sur les toilettes publiques du pont Démosthène, tout en haut du boulevard de la Levée, elle pendouillait à moitié quand il y avait du vent. Là se rassemblaient des désœuvrés, des dockers occasionnels, des joueurs de dés ou de bonneto de profession, des catins aussi, qui rêvaient d'épouser l'un de ces marins blancs qui partaient en goguette le samedi soir à travers l'Anville. À la vérité, les boueurs cherchaient à gagner les faveurs d'une ravissante bâtarde indienne que tout le monde nommait Tikouli et qui avait refusé de lui révéler son nom. Elle subsistait de la vente des plats de riz et de cochon salé qu'elle transportait dans d'énormes faitous posés sur sa tête, quoiqu'elle fût une créature plutôt frêle. À plusieurs reprises, le rescapé des Dardanelles avait tenté de l'aguicher, mais trop sûr de son fait avec son calot et son bel uniforme, il n'avait pas compris que la jeune femme se relevait à peine d'une blessure d'amour. Timano avait donc, sans le savoir, commis une grosse erreur le jour où il l'avait abordée, un jour de pluie agaçante parce que intermittente, qui obligeait les vendeurs de rue à se protéger avec des bouts de toile cirée que le vent menaçait de charroyer à l'aile. Bien bonjour, belle petite dame. Pour un galonné comme moi, le repas c'est moitié prix, hein ? Avait-il lancé, jovial. C'est le même prix pour tout le monde. Comment ça ? Tu ne respectes pas un homme qui allait se battre pour la patrie ? Un homme qui a risqué sa vie jusque dans le Bosphore ? Vous recevez une pension de l'État. Je ne vais pas pleurer sur votre sort. Il avait traversé l'Atlantique, vu du pays, parlé à des races différentes, participé à la guerre et par-dessus tout, augmenté son instruction. Donc il ne comprenait pas pourquoi cette ticoulie s'entêtait à refuser ses avances. Un après-midi, où tous deux s'étaient retrouvés seuls au pont des Mostènes, parce que le bruit avait couru qu'on distribuait des vivres à la population sur le port, vivres récupérés sur un bateau de guerre allemand récemment arraisonné, il se décida à tenter à nouveau sa chance lorsque son regard tomba sur cette vieille affiche collée sur les latrines publiques à laquelle ceux qui allaient vider leur vessie ne prêtaient aucune attention. Feignant l'indifférence, il la parcourut, la lisant à mi-voix, et une fois qu'il fut sûr de son fait, se lança à haute voix. Déclaration du maire aux habitants du Fort-de-France. Compatriotes, la guerre déchaînée en Europe, mais la France aux prises sur terre et sur mer avec l'Allemagne. Les nouvelles du câble nous ont fait connaître déjà que c'est avec un enthousiasme indescriptible que nos frères du continent courent vers la frontière pour repousser l'envahisseur. La distance, nous, aucunement interloquée, la vendeuse de repas se mit à rire entre ses dents, toujours sans envisager le moins du monde. Surmontant le sentiment de vexation qui montait en lui, le héros des Dardanelles continua. La distance nous prive de l'honneur d'être au premier rang des défenseurs de la patrie, mais nous avons ici encore un beau rôle à remplir. Une attaque de la ville est possible. Il faut, si elle se produit, que par notre attitude ferme et courageuse, nous nous montrions à la hauteur des circonstances et de notre qualité de Français. Soyons prêts, compatriotes. Souvenez-vous que cette terre où... La jeune femme se tourna brusquement vers Timano et l'interrompit d'un geste de la main qui ne souffrait aucune contradiction. Un geste d'homme, ou plutôt de mâle femme. Délaissant son métal, elle s'approcha de lui, très sûre d'elle, et le fixa en imitant des yeux. « C'est vrai, ça, que tu as fait la guerre, toi ?»« Oui. »« Oui. »« Et pourquoi tu n'es pas blessé ?»« Le bon Dieu a veillé sur moi, je pense. » Ah, le bon Dieu, celui des Blancs, c'est ça, hein? À ce que je vois, il ne protège que ces gens-là. Enfin, c'est ton affaire, soldat. Peu à peu, la faune habituelle qui investissait les abords du pont des Mostènes réapparut par petits groupes. Des parties bruyantes de dés ou de dominos commencèrent à même le trottoir couvert de poussière. On sortit les bouteilles de tafia que l'on but au goulot. Galope choquine, grandiseur, baliverneur, enjôleur de jeunes filles en fleurs et autres bas de la gueule enfilèrent leurs plaisanteries habituelles, sans se préoccuper de Ticouli et de Timano. En début de soirée, la demi-indienne demanda au miracle à l'ancien combattant de l'aider à charger sur sa tête son panier de faitout, alors que ces derniers étaient pour la plupart vides. Puis elle lui intima l'ordre de la suivre, comme si elle s'adressait à un petit garçon d'école. Personne ne se rendit compte de cet événement, car par mesure d'économie, l'électricité publique ne fonctionnait qu'un soir sur deux, pas ce soir-là justement. Timano, vaguement honteux, emboîta le pas à la jeune femme qui emprunta une trace invisible depuis le boulevard qui conduisait à l'en haut de ce dernier, endroit où avait poussé un inexplicable arbre à pain. Leur fruit trop mûr s'écrasait sur le sol et dégageait une odeur musquée qui attirait tout un lot de marins loin et de moustiques enquiquineurs. Le couple longea une enfilade de cases branlantes, éclairées par des lumignons, auxquels Ticouli lançait « Bonsoir, compagnie !» Au final, ils débouchèrent au pied d'une falaise où poussait une végétation extravagante. Là se trouvait le logis de la demi-indienne. Avant de soulever le loquet de sa porte, elle se tourna vers Timano. « C'est sûr que tu as combattu là-bas ? Si c'était pas vrai, on m'aurait interdit de porter cet uniforme, non ? Tu as vu des morts ? Oui, beaucoup, beaucoup de morts. J'étais sur un bateau qui a été touché par des mines. Et presque tout notre équipage a perdu la vie. Oh. Et le nom de ton bateau, c'était quoi ? Le Bouvet. À l'intérieur de la case, un garçon dégingandé étudiait ses leçons à la lueur d'une bougie. Il ne parut nullement surpris de l'arrivée de Timano, qu'il salua de la tête. « C'est mon fils, Félix. Au fait, va chez ta grand-mère ce soir. Tu finiras tes devoirs chez elle. Tiens, remets-lui ça pour moi. Sans un mot, il rangea ses livres et ses cahiers, prit la gamelle que lui tendit sa mère, et après avoir dévisagé longuement l'ancien combattant, sortit sans se presser. Il songe encore à son papa, commenta Ticouli. Chaque homme qui vient ici, il s'imagine que c'est lui qui est enfin revenu. Oh, pourquoi monsieur est-il parti construire le canal de Panama sans jamais m'avertir? Je sais pas. Foutre! Que la vie est raide! Ticouli et son énième amant eurent compagnie charnelle d'une façon haletante plusieurs fois dans la nuit. Peu avant le devant jour, elle secoua sans ménagement l'ancien combattant, lui intimant l'ordre de se lever de sa couche. Échappe ton corps, soldat des Dardanelles! Je ne veux plus jamais revoir ta tête par ici, tu m'entends? Plus jamais. Allez, remonte dans ta campagne de Grand-Anse. L'Anville, c'est pas fait pour toi.
Merci Sophie Bourrel, on peut l'applaudir, c'est la dernière lecture. J'ai encore plein de questions, mais peut-être que vous en avez aussi, donc on va en profiter. Il nous reste encore quelques minutes si vous avez des questions directement à Raphaël Confiant. La première, la deuxième, la troisième, etc. Qui a lu Le Bataillon Créole ? C'est pas une question de cours. Hein. Qui a lu des romans de Raphaël Confiant ? D'accord, vous en avez lu. Qui a une question ? Monsieur ?
Cher ami auteur, pourquoi est-ce que vous faites toujours semblant d'être un pur artisan de l'histoire ? Pourquoi vous n'insistez pas davantage sur le trouble, l'innovation de votre écriture? Pourquoi ce côté esthétique, littéraire, disons, ne joue-t-il pas un rôle plus important dans les débats autour de votre écriture, alors que c'est un tel plaisir de vous lire? Vous avez écrit un jour une très belle ligne que lire, c'est fait pour le plaisir. Écrire et lire, c'est pour le plaisir. Or, l'histoire n'est pas forcément pour le plaisir. Vous rejetez, en vous présentant exclusivement, quasi exclusivement comme historien, vous rejetez, vous occultez une part importante de votre œuvre.
Non, je ne crois pas que je me présente comme uniquement écrivain. Je dis que ce que je fais est à la croisée de la littérature, donc de l'art, de l'histoire, de l'anthropologie, de toutes ces choses. Parce que c'est vrai. C'est-à-dire que je suis toujours stupéfait quand il m'arrive, très rarement, je dois dire, ça me tombe des mains, mais bon, je m'y efforce de temps à autre, de lire un livre qui parle, par exemple, d'un couple qui vit, je ne sais pas, en Martinique ou dans le 15e arrondissement ici. Et puis bon, ils vivent, ils ont des problèmes, l'un aime l'autre, l'un trompe l'autre, enfin bon, une histoire purement littéraire, quoi. Je ne pourrais pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas.
L'autofiction.
Non, mais ce n'est pas seulement l'autofiction. Hein. Je veux dire, imaginer des personnages et puis parler de leur vie personnelle, enfin bon, je ne pourrais pas faire ça. Mais il y a une raison plus profonde aussi, c'est que je crois qu'il y a des écrivains artistes et qu'il y a des écrivains, je dirais, sans forfanterie, plus intellectuels ou universitaires. Un écrivain artiste, c'est quoi? C'est quelqu'un que la musique enchante, par exemple, que l'art enchante, la peinture, enfin que les arts enchantent, et qui a envie d'écrire parce qu'un tableau l'a frappé ou une musique l'a frappé. Moi, c'est absolument pas mon cas. Moi, ce qui me donne envie d'écrire, c'est la lecture d'ouvrages de sociologie, d'anthropologie, d'histoire. Ça me donne l'envie d'écrire. Mais jamais une musique ou un tableau, je ne sais pas que je rejette César, hein, mais ça ne me donnerait pas l'envie d'écrire. Donc je trouve qu'il y aurait quelque malhonnêteté à me présenter comme un écrivain au sens classique du terme, parce que même dans ma vie personnelle, je ne le suis pas. Pour vous donner une anecdote, il m'est arrivé d'aller dans des colloques ou des conférences dans divers pays, notamment les États-Unis, avec des gens comme Édouard Glissant ou Patrick Charmoiseau. Et après le petit déjeuner à l'hôtel, je les entendais dire « Bon, on va travailler. » Et avec stupéfaction, je les voyais retourner dans leur chambre et écrire de 8h du matin ou 9h jusqu'à midi ou 13h. J'ai jamais pu faire ça. Et quand il me disait « Bon, toi aussi », je disais « Oui, oui, mais c'est pas vrai. » J'allais dans ma chambre, je fumais, je regardais la télé, enfin bon, je faisais n'importe quoi. Et bon, je me disais « Mais ces gens sont habités par la fièvre de l'écriture. » Parce qu'ils sont capables de rester 4 heures, et puis ils sont habités par cette fièvre, et puis ils écrivent pendant 4 heures, quoi. Moi, au bout d'une demi-heure, ça me fatigue, je me lève, je pars, je reviens, enfin bon, et j'écris n'importe où, dans l'avion, hein. J'ai un manuscrit pour mon prochain roman.
Sur quoi ?
Sur un personnage tout à fait extraordinaire que j'ai découvert, qui s'appelle Stéphanie Sinclair, qui est une Martiniquaise, qui a quitté la Martinique à 26 ans, qui est venue en France, à Marseille, et qui a émigré à Harlem, où elle est devenue la reine de la loterie clandestine. Et c'est un personnage extraordinaire qui a résisté à la mafia italienne, parce que tant qu'il y avait la prohibition, la mafia italienne, juive, etc., aux États-Unis, elle préférait faire le commerce d'alcool clandestin. Donc ça rapportait de l'argent. Mais une fois que la prohibition a été levée, ben la mafia s'est dit, mais on va aller à Harlem, ils ont mis un système de loterie là, comme on n'a plus rien, on va se rabattre sur cette loterie clandestine. Et cette dame Stéphanie Sinclair a mené 15 ans de guerre contre la mafia italo-juive pour empêcher que cette mafia ne s'empare de la loterie clandestine des Noirs. Et elle a échoué au bout d'un moment, parce que la mafia était puissante. Lucky Luciano, Al Capone, tous ces gens-là, on ne résiste pas. Elle a quand même résisté 15 ans, ce qui était beaucoup. Et elle est totalement inconnue en Martinique. Et vous parliez de Wikipédia tout à l'heure. C'est vrai que les intellectuels en général troussent le nez dessus, mais c'est tout à fait par hasard, en cherchant quelque chose sur Wikipédia, en anglais, Wikipédia, où je vois Stéphanie Sinclair was born in Martinique, etc. Et puis toute son histoire est racontée, mais c'est un truc absolument stupéfiant. Comment une jeune Martiniquaise noire arrive à New York en 1920 et devient la reine. Elle était surnommée d'ailleurs Queenie, petite reine, Queenie. Et elle a régné sous la loterie clandestine de Harlem pendant plus de 25 ans. Alors elle apparaît quand même furtivement dans certains films comme Cotton Club, elle apparaît furtivement comme personnage secondaire. Parce que ça n'intéressait pas trop les Américains de mettre quelqu'un qui n'est pas... Alors, elle n'avait jamais réussi à prononcer le « the » anglais. Et donc, ça stupéfiait les Américains, parce que quand elle parlait avec un accent français Et elle disait, je suis française. Quand on lui disait, mais vous venez d'où? Je suis née à Marseille. I was born in Marseille. Et bon, elle jouait sur cela, s'imposant comme une noire d'origine française, ce qui en 1920, pour les Américains, ils ne comprenaient pas ce que c'était, quoi. Donc, même les noirs américains ne comprenaient pas ce que c'était. Et donc, je suppose qu'elle a dû jouer sur ça pour s'imposer. Mais c'est un sujet qui, là encore, pour répondre à votre question, demande tout un travail d'enquête. Là, je me casse la tête pour savoir comment fonctionnait cette loterie clandestine. Il paraît qu'on pouvait miser un cent dessus. Et qu'il y avait 6 numéros qui sortaient, enfin, qui me casse la tête depuis quelques mois. Bon, c'est pas très artistique, hein, ça. D'aller chercher comment fonctionnait la loterie clandestine. Alors, il y avait des... Bon. Donc, vous voyez que, bon, pour répondre à votre question, ce que je fais est à la croisée des sciences humaines, telles qu'on les appelle traditionnellement, et puis la littérature.
D'autres questions ? Profitez-en. Bon, il y aura un after, puisqu'il y a des livres à signer, bien sûr, mais bon. Une question ?
Monsieur.
Est-ce que vous comptez écrire d'autres livres en rapport avec votre enfance? Parce que j'ai en tête les radis de Bonjour et la Défense, notamment, qui a été est-ce que vous comptez écrire sur cette période, justement, parce que vous êtes né dans les années 50? Et pour, je sais que c'est un univers qui a quasiment disparu par rapport à. Vous évoquiez tout à l'heure le rapport entre les Français notamment, et j'aimerais savoir si vous comptez, pas forcément en rapport avec votre enfance, mais revenir sur cette période, donc les années 60, juste on dire les années 70, qui, je pense, constituent un moment charnière dans les Antilles francophones.
C'est-à-dire que cette enfance est omniprésente dans tous mes livres à travers des personnages. Pourquoi ? Parce que, ça je reprends une idée de Patrick Chamoiseau, nous sommes une génération qui est devenue vieille à 20 ans. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous avions vécu s'est brutalement effondré. Normalement, une génération se sent vieille à partir de 70, 75, 80 ans. Mais quand j'ai eu 20 ans, le monde de la plantation qui avait duré 3 siècles, mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient des distillateurs, des fabricants de rhum. Hein. Et bon, j'ai vécu dans tout le monde, la canne à sucre, les coupeurs de canne, enfin, tout ça. Et ce système s'est brutalement effondré quand ma génération a eu 20 ans. Et se sentir vieux à 20 ans, voir son monde disparaître quand on a 20 ans, c'est quelque chose qui est terrible. On le sent confusément. Hein. Ce n'est pas aussi clair que je l'explique aujourd'hui. Mais on a vraiment eu le sentiment de changer brutalement le monde. La canne à sucre s'est carrément effondrée. Or, c'est un système qui existait depuis 3 siècles. Hein, par exemple, dans mon enfance, je n'avais jamais vu un champ de bananes, parce que ça n'existait pas. Il n'y avait que des champs de canne à sucre. Aujourd'hui, vous allez en Martinique, il n'y a que des champs de bananes. Très petits champs de canne à sucre. Ne serait-ce que ça, par exemple. Hein. Et puis, toutes les croyances, la sorcellerie créole, le quimbois et toutes ces choses... mais nous sommes aussi cette génération à la charnière, puisque c'est nous qui sommes la première génération francisée, ne serait-ce que linguistiquement, hein, francisée, puisque le français devient notre langue première et le créole devient notre langue seconde. Et donc il y a la nostalgie de la perte de la langue aussi. C'est pour ça que j'ai écrit mes premiers livres en créole. Si je les ai écrits, c'est pas par masochisme, comme certains me disent, mais pourquoi tu écris dans une langue que personne ne lit? Est-ce que tu m'azo? Mais c'est parce que cette langue, je l'ai toujours entendue dans mon enfance. Je l'ai un peu pratiquée à l'insu de mes parents. Et j'ai toujours vécu dans la terreur qu'elle disparaisse. Et donc, comme ma génération est passée au français... Mais ça a été vécu en France pour l'Occitan, le Breton, en fait, toutes les langues régionales. La génération charnière, en général, elle est mal à l'aise, quoi, parce qu'elle est encore dans les deux langues, mais elle sent bien qu'il y en a une qui va s'en aller. Donc elle est habitée par une espèce de nostalgie et de l'irrécupérable, en fait. Parce que lorsqu'une langue meurt, elle ne meurt pas aussi vite que nous, les humains. Nous, en une seconde, on peut mourir d'une balle, mais les langues, ça prend beaucoup de temps. Même aujourd'hui, on parle un peu breton, un peu occitan. C'est vous dire que comment il est difficile de faire disparaître une langue. Donc il reste toujours des locuteurs isolés et tout. Mais c'est l'espèce de grande tristesse que l'on ressent, que son monde, la langue, la culture, les croyances, tout s'effondre alors qu'on n'a qu'une vingtaine d'années et qu'on change brutalement de monde. Donc cette enfance dont vous parlez, elle est omniprésente comme une obsession, mais pas à travers moi, à travers mes personnages.
Merci. Y a-t-il d'autres questions? Il y a les livres, donc, que vous trouvez juste là et que vous pourrez...
Vous voulez poser une question, je crois?
Par rapport à la langue, il y a eu un phénomène qui
Tout à fait.
De transmission de langue. Donc elle ne s'est pas perdue seulement parce qu'il y avait la rupture de l'industrie, enfin, de l'industrie sucrière, mais aussi parce qu'il y a tout un abond dans la mesure où il y a eu quand même, pour la Martinique, 160 000 jeunes entre 20 et 25 ans qui ont été.
Oui, mais ceux qui sont restés ont parlé, ont continué à parler créole quand même.
Oui, il y a quand même. Pour que ça se. Je veux dire, il y a eu un manque de monde dans les
pays. Oui, mais ils ont transporté la langue ici, à la limite, on parle plus créole chez les Antillais ici qu'aux Antilles. Parce que souvent, des petits bourgeois antillais qui n'ont jamais parlé créole chez eux, quand ils arrivent étudiant ici, c'est là, c'est ici qu'ils parlent créole.
Ouais. D'une
certaine
manière,
la c'est pour moi. Ouais.
Dans la mesure où c'est
la partie
que j'ai parlé.
Voilà.
Mais
c'est paradoxal.
Mais ça a complètement eu un effet.
Ah oui, je ne dis pas que ça n'a pas eu d'effet. Hein.
Je pensais à votre crainte, vous disiez, de la perte de cette langue.
Oui.
Donc le festival des Outre-mer continue demain, comme le disait tout à l'heure Gérard Lamoureux, ce sera la fondation Calouste Gulbenkian à 15h. Et la semaine prochaine, je vous retrouverai ici vendredi à 18h au Théâtre de l'Odéon avec le Être esclave, qui est le titre de l'essai de Catherine Cochry-Vidrovitch et d'Éric Ménard. Merci beaucoup Sophie Bourrel, merci beaucoup Raphaël Confiant.
Merci à vous.